Et bonsoir, c'est Yop du label Les Antipodes. Saviez-vous que Vanille venait d'ouvrir une boutique pour son podcast ? Il y a des t-shirts super stylax que vous pourrez arborer fièrement dans la rue. Il paraît même qu'en achetant deux t-shirts, vous favorisez le retour de l'être aimé. Vous n'avez plus aucune excuse, le lien est dans la description. Et maintenant, je vous laisse avec votre épisode. Bonne écoute.
Tired of ads interrupting your gripping investigations ? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hello, hello, welcome back pour un nouvel épisode de C'est Creepy, podcast dans lequel je vous parle de tueurs et tueuses en série, paranormal et mystère en tout genre, mais surtout des histoires creepy comme celle d'aujourd'hui. Alors d'abord, désolé pour la semaine dernière, comme vous avez pu le remarquer ou pas, j'ai pas publié d'épisode et je pensais que personne allait s'en rendre compte, mais j'ai reçu des messages pour me dire où est l'épisode de cette semaine ? Et il n'y en avait pas parce que j'étais débordée, voilà, c'est tout simple. Ça me prend 2 jours de faire un épisode, donc un pour l'écrire. Et un entier pour l'enregistrer, voilà, faut pas se poser des questions, je sais c'est n'importe quoi, mais du coup j'avais pas 2 jours la semaine dernière pour écrire l'épisode, bref. D'ailleurs si quelqu'un veut me rejoindre pour raconter des histoires avec moi, n'hésitez pas, à la base je voulais avoir une co-host, vous savez, comme dans les podcasts américains quoi, parce qu'en français je n'ai pas connaissance. En tout cas, j'en écoute pas de podcast où il y a plus d'une personne qui parle de meurtre. Donc voilà, n'hésitez pas. S'il y a quelqu'un qui veut me rejoindre pour parler, chacun une histoire, voilà, n'hésitez pas. Qu'est-ce que je disais ? Sinon, déjà, merci beaucoup pour vos écoutes. On a dépassé le 1000 d'écoutes. Ça fait un peu bizarre parce que j'ai quoi ? 6 épisodes et c'est beaucoup. Je pensais que j'allais parler à 3 personnes, voire 5 personnes maximum. Et puis toutes les semaines, au final, ça monte et voilà, c'est trop bien. Et je voulais dire aussi merci à ceux qui me laissent des notes sur Apple Podcast. J'ai été checker l'autre jour et j'ai vu que j'avais ma première review, mon premier avis de Pascal Filosa qui me dit « Oh là là, qu'est-ce que j'ai rigolé avec la femme barbe bleue, tout est dans la narration, c'est excellent ». Et ben merci beaucoup à toi Pascal, trop sympa, je suis contente qu'il t'ait plu, je crois que c'est mon épisode préféré avec celui sur les poupées et celui sur Robert Durst, c'était les plus fun à enregistrer, bien que le premier que j'ai fait sur Barbe Bleue, j'étais toute seule chez moi, dans le noir, et j'étais pas sereine en fait, parce que j'ai l'impression que elle pouvait m'entendre parler d'elle, voilà. Alors, sinon, pour l'histoire d'aujourd'hui, je ne savais pas trop quelle affaire traiter cette semaine. Il n'en manque pas, hein, malheureusement, ce n'est pas ça le problème. Mais je ne sais pas, j'avais une panne d'inspi sur ce que je pouvais faire après, parce que j'avais fait un peu les affaires qui m'avaient le plus marqué. Enfin, voilà, quoi, j'ai fait Belle Gunness, Robert Durst, etc. Donc là, je voulais... on va faire un truc un peu plus soft, du coup. Enfin, soft. N'importe quoi, je retire ce que j'ai dit, ça va pas être du tout soft. Mais bref, je me comprends dans mon cerveau. J'aurais pas dû dire ça. Anyways. Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire qui date de 2018. Et que vous connaissez peut-être sûrement, parce que quand ça s'était sorti aux États-Unis, on l'a entendu aussi en France, etc. C'est l'affaire Turpin. J'en ai entendu parler ces jours-ci à nouveau parce que il est sorti une interview aux États-Unis des survivants et enfin survivante, qui explique un petit peu ce qui s'est passé devant les caméras, etc. Et c'est la première fois qu'on les entend parler. Et je me suis dit, il faudrait peut-être que je regarde un peu plus en détail cette affaire et que je vous en parle. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de la House of Horrors, comme les Américains l'appellent. Et c'est une affaire où il n'y aura pas de meurtre et de mort, mais c'est creepy. C'est pas, ça ne va pas vous mettre bien en fait. Voilà, enfin, moi ça ne m'a pas mis bien quand j'ai regardé les vidéos, Je me suis dit, my god, il s'en passe des choses sur cette terre, c'est pas possible. Bref. Donc voilà, on va commencer par la fin. Vous savez, quand nous, on est là tous les jours, on vit notre petite vie et souvent, on réfléchit pas trop. Mais des fois, quand même, je me pose et je me dis, et peut-être que vous aussi, je sais pas, je me dis, là tout de suite, alors je suis chez moi et que je fais ce que je veux de ma journée. Et il y a des gens qui sont retenus contre leur volonté. Alors, je ne parle pas de votre boulot de tous les jours, bien sûr. Je parle des personnes qui ont été kidnappées, ou pas d'ailleurs, comme c'est le cas pour l'histoire d'aujourd'hui. Mais vous savez, des personnes comme l'histoire de Natasha Kampusch, qui a été kidnappée alors qu'elle allait à l'école quand elle avait 10 ans et qui est restée enfermée pendant 8 ans, 3096 jours, dans le sous-sol d'une maison et qui arrive à s'échapper comme ça du jour au lendemain. Elle ressurgit de nulle part et alors que pendant ces 3096 jours, au-dessus d'elle, la vie continue, comme si de rien n'était, alors que la sienne, elle s'est arrêtée pendant 8 ans. Et là, tout de suite, malheureusement, c'est sûr et certain, au moment où vous écoutez ce podcast, il y a des gens qui doivent être dans des caves ou je ne sais où, enfermés depuis des jours, des semaines, voire des années, qui doivent être en train de se dire que tout le monde les a oubliés et qui ne savent pas s'ils reverront l'extérieur un jour. Ouais, je sais pas, je pense à des trucs comme ça des fois. Pareil pour Dupont de Ligonnès, je me demande ce qu'il est en train de faire là tout de suite. Peut-être qu'il se cuit un œuf ou alors il change une cartouche dans son imprimante. Enfin, voilà quoi, des choses, des pensées comme ça souvent. Voilà, je sais pas, ça me perturbe. Voilà, c'est tout simple. Bon, on retourne à l'histoire. Ça se passe le 14 janvier 2018, à 5h49 du matin, à Paris, en Californie. Une jeune fille titube, enfin, j'ai envie de dire hors d'une fenêtre, mais en vrai, sur la vidéo de surveillance de la rue, on voit juste une forme qui s'arrête, qui regarde un peu autour d'elle, et elle se met à courir sur le trottoir. Et là, le 911 reçoit un appel. Une jeune fille à la voix d'enfant qui dit avoir 17 ans explique s'être enfuie de chez elle. Alors, je vais vous mettre les liens vidéo de YouTube où on entend l'appel à la police qui dure 21 minutes, je ne vais pas vous le passer là, mais c'est très troublant à écouter. Forcément, comme tous les appels 911, j'ai envie de vous dire. Mais moi, je l'ai écouté, j'ai trouvé ça captivant. Enfin, la manière dont elle parle, en fait, elle dit que c'est la première fois qu'elle est dehors de sa vie. Hein. Elle n'a jamais utilisé le téléphone. C'est la première fois qu'elle passe un coup de fil et elle raconte, avec des mots très particuliers, sa situation. Donc ça, en anglais. Hein. Donc si vous ne parlez pas anglais, je pense que vous n'allez pas relever les moments où elle s'exprime différemment. En fait, la manière dont elle prononce les mots, c'est même pas un accent, en fait, c'est vraiment, elle a un retard linguistique, on va dire. Elle a pas beaucoup de vocabulaire, donc elle tourne ses phrases différemment pour se faire comprendre. Elle connaît pas, par exemple, le mot blessure, elle connaît pas le mot médicament, elle connaît pas... plein de petits mots comme ça que vous et moi, on connaît, hein, et elle, quand on lui demande si elle prend des médicaments, elle dit qu'est-ce que c'est médicament. Quand on lui demande est-ce que tu es blessée, enfin est-ce que tu as des blessures, elle dit c'est quoi blessure, enfin bref, voilà quoi. Du coup, la personne du 911, je sais même pas comment on dit en français, on va dire son interlocutrice, elle lui demande si elle connaît son adresse, parce que pour qu'on vienne l'aider, il faut qu'elle leur donne l'adresse, forcément, et elle va répondre que non, et On lui dit, bah, donne au moins le numéro de la maison. Voilà, c'est simple, c'est écrit dessus. Enfin, dans notre tête, c'est normal, mais on se rend compte, en fait, elle n'a jamais vu l'extérieur de sa maison. Je crois qu'elle ne sait même pas, c'est pas enregistré dans son cerveau, le numéro, enfin, le fait que les numéros des maisons sont écrits dessus. Du coup, elle donne une série de chiffres à la place. Elle dit, bah, attendez une minute, faut que vous compreniez que je n'ai jamais mis le pied dehors. Je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas comment je fais pour trouver mon adresse, mais je vais essayer de la trouver. Une seconde, c'est dur pour moi. Je n'ai jamais parlé à des étrangers. Voilà, il faut que vous compreniez ça. Et bah alors, du coup, elle donne une série de chiffres, mais c'est un peu long, hein, parce que normalement, les chiffres des maisons, je pense qu'aux États-Unis, ça va jusqu'à 4, il me semble, il faudrait que je vérifie, mais ça va jusqu'à 4 chiffres. Voilà, et là elle en sort 5, 6, 7, donc on sait pas trop ce que c'est, si c'est un numéro de série ou si c'est un numéro de maison, quoi. Et son interlocutrice lui dit, non, ça c'est un code postal, ce que tu viens de me donner, c'est pas le numéro de la maison, est-ce que tu pourrais regarder le numéro qui est écrit, je sais pas, sur ta porte ou sur le mur, normalement c'est 3 numéros, elle lui dit ça. Elle lui dit aussi, si t'as pas envie de retourner à la maison, en gros, parce que forcément, hein, elle est partie en courant, se cacher un peu plus loin, elle va pas retourner devant la maison au cas où on aurait remarqué quelque chose. Donc elle lui dit, si jamais, donne-moi le nom de la rue, ce que tu vois, un panneau, quelque chose. Et bah, elle regarde autour d'elle et tout ce qu'elle voit, elle a dit, c'est un panneau stop. Voilà, il y a écrit stop dessus et c'est tout. Et elle reprécise que bah, elle sait pas comment fonctionne une rue. Oui, juste le principe d'une rue, les trottoirs, la route, elle connaît pas du tout. C'est la première fois qu'elle est dehors, donc elle est perdue. Elle sait pas comment trouver l'adresse. Enfin, imaginez la scène. Imaginez que vous avez aucune connaissance du monde extérieur. Enfin, je peux même pas vous dire. Imaginez, on peut pas. On voit l'extérieur tous les jours. Enfin, normalement. mais voilà, on peut pas s'imaginer de pas connaître l'extérieur. C'est surréaliste. Donc, elle donne une série de chiffres. Et vu que ben on peut pas trop la localiser, je pense qu'il la localise au final par GPS parce que elle connaît pas son adresse, voilà, tout simplement. Et elle explique direct, hein, elle rentre dans le vif du sujet parce que l'interlocutrice continue de lui poser des questions, mais c'est elle direct, elle lui dit que elle fait partie d'une famille de 15 personnes et que ses parents les maltraitent. Qu'elle a réussi à s'enfuir, mais que certaines de ses petites sœurs sont enchaînées à leur lit et qu'ils vivent tous dans une maison vraiment sale, les déchets s'empilent. Le matin, quand elle se réveille, elle dit que bah, parfois elle n'arrive même plus à respirer tellement ça pue et que l'air il est lourd, enfin voilà. Et ils ne mangent presque pas, leurs parents ne leur donnent pas à manger, ou alors une fois par jour, et encore c'est pas des repas nutritifs. Et ils n'ont pas le droit de se laver ou de se changer. Donc, ils sont dans leurs vêtements depuis des mois. OK ? On lui demande à quand remonte son dernier bain et elle dit, je ne sais pas, il y a un an, je crois. Mais que voilà, elle se lave le visage quand elle peut ou les cheveux parce qu'elle ne supporte pas de se sentir sale. Des fois, c'est juste, voilà, elle est obligée. Ils envoient donc une voiture de police la trouver au coin de la rue parce qu'elle attend là. Et pendant ce temps-là, l'interlocutrice continue de lui poser des questions et de la faire parler. Et on entend en fait dans l'appel que soudain elle dit bonjour. Enfin, elle est surprise par le policier qui l'interpelle. Et là, elle est complètement perturbée. Elle dit que, enfin, ça se voit. Il y a la vidéo aussi, la bodycam de la police. On voit. Bah, qu'elle est surprise que quelqu'un s'adresse à elle, qu'elle parle à un étranger pour la première fois. Elle lui dit, hein, elle dit au policier, bon, enfin, elle prend son souffle, etc. Elle dit, c'est la première fois que je parle à un étranger, alors attendez, je vais vous expliquer. Le policier, il fait pas son connard, il l'écoute. Heureusement, dans cette histoire, l'interlocutrice du 911 et le policier qui vient sur place. En fin de shift en plus, hein, parce que soi-disant il allait rentrer chez lui, etc. C'était sa dernière affaire, donc il aurait pu, voilà quoi, bâcler le travail. Ne faites pas ça, d'accord ? Ne bâclez pas le travail. Vous êtes policier, c'est pas pour rien. En tout cas, lui, il s'attendait à, quand il a répondu à l'appel, il s'attendait juste à ramener une jeune qui fuguait de chez ses parents, voilà, simplement à la maison. Et au final, bah, quand elle lui raconte son histoire, déjà la première chose qu'il lui demande, c'est est-ce que tu prends des médicaments? Parce qu'elle a l'air un peu, comment on dit? Je sais pas si on dit erratique, erratique, erratic. Elle a l'air un peu erratique. Attendez, je vais vérifier. Oui, elle a l'air un peu erratique, elle a l'air instable, hein, on peut le dire. Elle est stressée, elle bouge un peu dans tous les sens, parce qu'elle est intimidée par lui. Elle dit qu'il avait l'air super sérieux, enfin voilà quoi, il fait un peu peur. C'est un flic américain, en plus de ça. Et elle répond, bah, comme je vous ai dit, c'est quoi un médicament? Enfin, ça se voit qu'elle est attentive, elle dit c'est quoi médicaments pour qu'elle puisse répondre le mieux possible. Et du coup, il lui explique des cachets. Est-ce que tu prends des cachets? Bon, elle bug un peu, mais elle dit non, j'en prends pas. Une fois, on nous en a déjà donné, mais voilà, je sais pas ce que c'était d'ailleurs le médicament qu'elle précise. Ça devait être un sirop pour la toux ou quelque chose du genre. Elle prend pas de médicaments. Voilà. Donc le policier l'écoute et il lui demande si elle a des preuves de ce qu'elle dit. Il lui demande même, je crois, où est-ce que t'as pris le téléphone. Enfin voilà, elle a dit, oh, c'est le téléphone de mon frère, voilà, j'ai réussi à le prendre, etc. Et elle dit, oui, oui, j'ai pris des photos, j'ai des preuves, j'ai des photos de mes sœurs qui sont enchaînées. Et elle a littéralement pas le vocabulaire pour dire qu'elles ont des bleus, donc elles sont frappées. Et quand le policier remarque l'état des filles, il sait que bah, c'est du sérieux, elles sont toutes maigres. Ça a l'air un peu sale aussi autour. Enfin, elle montre aussi les photos de la maison, que c'est le bordel, etc. Et il voit qu'il y a un problème, clairement. Donc il lui dit de monter dans la voiture et il lui demande bah, tu serais capable d'y retourner? Et elle va dire non, j'ai trop peur d'y retourner, je sortirai pas si vous rentrez, si vous allez cogner à la porte, etc. Voilà quoi. Dans la voiture, il lui demande aussi si ses parents ils savaient qu'elle s'était enfuie, etc. Qu'est-ce qu'ils diraient, enfin, s'ils s'en rendaient compte. Et elle dit, littéralement, ils me tueraient. Voilà, tout simplement. Elle donne un peu plus de détails aussi. Elle dit qu'elles auraient été enchaînées parce qu'elles auraient volé de la nourriture à leurs parents, qu'elles étaient donc punies. Voilà, c'était une punition. Et que très souvent, elles se faisaient battre par leurs parents, poussées du haut des escaliers, jetées à l'autre bout d'une pièce. Et que ça faisait des années qu'elles vivaient comme ça. Enfin, qu'elle et tous ses frères et sœurs, qui sont au total 13. Oui, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. C'est le nombre d'enfants quand même, juste pour que vous vous rendiez compte. Après, peut-être que vous venez vous aussi d'une famille nombreuse, j'en sais rien. Voilà, c'est pour ceux qui seraient peut-être enfants uniques ou avec un ou deux frères et sœurs, voilà. Mais 13, là je vous parle d'une famille de 13 personnes, juste pour nous donner un ordre d'idée à nous les gens qui ne savent pas ce que c'est. Elle raconte aussi que leurs parents, eux, se goinfrent de fast-food, parce que sinon c'est pas drôle bien sûr, et bah, ils mangent bien à leur faim, hein, fast-food, plats surgelés, pendant qu'eux sont obligés de se débrouiller tout seuls, en mangeant parfois des glaçons avec du ketchup ou de la moutarde. Yikes. Et pour vous dire à quel point ils sont amaigris, un des enfants qui avait 11 ans avait le bras de la circonférence de celui d'un bébé de 4 mois. Voilà, j'ai juste fait un blanc pour vous imaginer la chose. Quelques heures plus tard, 2 jours, la police se rend au domicile. Donc, ils sont plusieurs policiers avec Jordan. Bon, alors, Jordan, je crois qu'elle reste à l'arrière de la voiture. Hein, elle vient pas avec eux. Elle leur dit qu'elle est incapable de venir. Parce qu'elle a pas envie que... Bah, en fait, elle avait peur vraiment qu'il la ramène chez elle. Mais vraiment, elle était terrifiée qu'il la ramène chez elle parce qu'elle voyait qu'il faisait le chemin vers la maison. Du coup, elle était complètement... voilà, elle a cru que vraiment on la ramenait chez elle. Imaginez-vous, 2 minutes, vous venez de prendre tout votre courage et toutes vos forces qui vous restent, sachant que vous n'avez pas dû manger beaucoup les derniers jours. Vous prenez tout votre courage, vous lancez à travers la fenêtre, vous courez. Et là, le policier, il fait demi-tour et il vous ramène chez vous. C'est chaud quand même. Enfin bon, ils reviennent quelques heures plus tard au domicile, à mon avis. Je pense pas qu'ils y retournent tout de suite. Ils vont chercher du backup et le matin, bien sûr, le plus vite possible, hein, parce que les enfants sont quand même enchaînés, ils reviennent à plusieurs et ils toquent. Et ça ne répond pas. Ils se posent des questions, ils tournent un peu et on dirait qu'ils vont faire demi-tour en disant bah il y a personne, ça répond pas, la porte elle est fermée, je sais pas, va peut-être falloir la défoncer. Mais là, ça s'ouvre et ils voient une petite tête. C'est la mère et derrière il y a le père. Ils ouvrent la porte, ils sont en pyjama, ils disent bah qu'est-ce qui se passe, on était en train de dormir. La police dit qu'une de leurs filles a fugué. Est-ce que vous le savez? Et là, ils tirent des tronches de 6 pieds de long. Alors, je ne veux pas juger. Hein, on ne va pas juger le physique des gens. Mais je vais le faire. La mère, elle a une tête assez creepy de base. Mais alors là, on dirait la tête qu'elle fait quand elle apprend ça, on dirait le tableau Le Cri, là, vous savez, avec la main, enfin les mains sur la tête de chaque côté et qui hurle. Bah en fait c'est ça quoi, elle est, on voit que elle est en panique, elle se rend compte de ce qui est en train de se passer et voilà, ils font des têtes pas possibles. Le père, il est un peu je sais pas, on dirait il est drogué tout le temps, il a pas de réaction, voilà. Mais la mère, my god, elle me fait peur, je vous le dis clairement, la daronne, full judgment, elle me fait peur. Juste taper affaire Turpin sur Google, vous allez avoir la photo, les mugshots des deux. C'est en plus la mère sur son mugshot, elle est en train de sourire, genre petit sourire. Ah, quelle horreur. Bref, les deux en fait, ils me font penser à des fantômes. Voilà, ils sont très fantomatiques. On dirait des morts-vivants. Enfin, vraiment, on dirait des zombies. Ils me font peur. Donc la mère, elle se décompose, elle répond pas grand chose. Elle reste là, la bouche ouverte. Choquée, elle ne sait pas trop quoi dire. Et la police, vu qu'ils ne réagissent pas, voilà, ils poussent la porte et ils rentrent de force. Et ils constatent la même chose que Jordan a expliqué. La maison dans un état pas possible. Il y a des piles de vêtements partout, des emballages de bouffe, des sacs de fast-food en montagne. Enfin, c'est dégueulasse. Ils explorent la maison et ils finissent par trouver les enfants vivant dans des conditions inimaginables. Certains sont effectivement enchaînés au lit avec de vraies chaînes en fer, accompagnés d'un sympathique cadenas. Ils ont la peau sur les os, ils sont sales, ils portent des vêtements littéralement souillés, marronnasses. D'ailleurs, pour que vous vous fassiez une image dans votre tête, les escaliers, les murs, les sols, ils sont marrons. La moquette qui est censée être beige, enfin on voit elle est gris-beige, elle est marron foncé, ça fait ça forme des taches, des auréoles imbibées de je ne sais quel liquide humain marron, vous savez lesquels. Les enfants étant attachés à leur lit, ils font leurs besoins où ils peuvent, ils n'ont pas trop le choix. Le sol de la douche, lui, il est recouvert de moisissures noires, donc même si vous aviez le droit de vous doucher une fois par an grand max, c'était pas un moment si satisfaisant que ça parce que vous l'aviez dans une salle de bain sale, quoi. Vous l'aviez dans du sale. Donc à savoir, il y a 13 enfants en tout. Ils ont entre 2 et 29 ans. Il y a 7 des enfants qui sont adultes, quand même. Mais ils ont tous l'apparence d'enfants. On les voit, on n'a pas l'impression qu'ils ont 29 ans. Là, si vous voyez la plus grande, la plus âgée, elle s'appelle Jennifer. Elle n'a pas l'air d'avoir plus que, je sais pas moi, 19 ans. Enfin, ce sont des têtes vraiment de bébés. D'ailleurs, Jennifer, vous pouvez la voir aux côtés de Jordan dans l'interview. Elle va dire qu'elle essayait tant bien que mal de s'occuper de ses frères et sœurs, mais ses parents, il a forcé à faire des choses pas terribles. Il a forcé à les mettre dans des cages. Et si elle ne le faisait pas, c'était elle qui allait dedans, quoi. Apparemment aussi, ils sont 13 enfants, on peut se dire, ouais, voilà, ils sont ensemble, ils sont soudés, etc. J'ai lu que les parents, ils essayaient de couper un petit peu, les éloigner les uns des autres pour que ils ne parlent pas trop, etc. Que voilà, ils ne communiquaient pas trop entre eux. Enfin, je ne sais pas, on dirait pas qu'ils sont très proches. En tout cas, je n'ai pas ressenti cette impression dans dans les interviews, bon, à part les sœurs, enfin, voilà, elles se font un câlin sur le plateau, etc. Elles se disent, ah, je suis fière de toi, de nous avoir libérés au final en t'étant enfui. Mais bah, ils font pas trop référence aux autres frères et sœurs. Enfin, voilà, après, il n'y a pas trop de détails, je pense pas qu'on va tout savoir. Mais en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai eue. Ils sont pas tous. Au final, ils finissent pas tous libres ensemble, tout seuls dehors. Par exemple, c'est pas. Enfin, je sais pas comment ça se passe. Hein. Franchement, je sais pas. Mais peut-être on pourrait se dire, ah bah, à 29 ans, vu qu'elle est majeure, peut-être que elle va reprendre la garde de tous ses frères et sœurs. Enfin, je sais pas. Et ils vont vivre tous ensemble. Comme ça, ils vont éviter d'être placés dans des familles moyennes après, ou que ça se passe mal, ou qu'ils soient séparés tout court. Enfin, je sais pas. Ça peut faire un choc. Enfin, j'en sais rien, quoi. Mais en gros, quand on leur demande, vous avez des nouvelles de vos frères et sœurs, elles disent oui, enfin oui, mais non, en vrai, pas trop. Je sais qu'ils sont bien. J'ai des nouvelles de certains, ils me disent que ça va. Voilà. Donc, vous voyez l'ambiance. C'est ça que je voulais dire en fait. Jordan explique qu'elle a réussi à tenir tout ce temps en regardant des vidéos sur YouTube, notamment de Justin Bieber. Bizarrement, ils avaient accès à Internet, à la télévision, à des téléphones. Voilà, je sais pas, ça fait aucun sens. Et du coup, bah, ils pouvaient passer des mois enchaînés à leur lit. Bah, ils avaient quand même, ils avaient quand même, ils avaient, oui, ils avaient quand même des clips vidéo. Enfin, ils avaient une certaine connaissance du monde extérieur, si je puis dire, à travers YouTube. Et c'est ça qui a permis, en fait, à Jordan de se rendre compte que bah, la vie c'était pas ça, c'était pas rester enfermé chez soi entre quatre murs, enchaîné au lit, en train de mourir de faim, de se faire frapper, jeter d'un coin de la pièce à l'autre, enfin voilà quoi. Alors comme au début où j'avais dit qu'elle disait qu'elle avait jamais mis les pieds dehors, oui pour la plupart du temps, mais il est arrivé à la famille de faire quelques sorties à Disneyland. Allez savoir, les parents sont accros à Disneyland. Leur plaque d'immatriculation de voiture a été personnalisée pour qu'on puisse y lire D-Land ou D-Land Forever. Donc Disneyland pour toujours. On peut trouver des photos de la famille entière en sortie à Disneyland. Leurs photos, elles sont super creepy d'ailleurs. Les parents, ils sont toujours collés les uns aux autres. La mère et le père, là, ils sont main dans la main. Collés, et puis les enfants ils sont autour, on dirait des décorations. Enfin, en vrai de vrai, ça c'était les photos qu'ils postaient sur Facebook. Les Jordan et Jennifer vont dire qu'ils faisaient exprès d'entretenir une image positive hein, et heureuse de la famille, mais en vrai de vrai, ils interdisaient à leurs proches de venir à la maison chez eux parce que bah, forcément ils les verraient dans des conditions. Pas possible, enfin, je veux dire, pourquoi tu inviterais des gens chez toi alors que c'est le bordel et la moquette est marron, etc. Forcément, ils interdisaient à la famille de rendre visite. Donc, à la place, ils postaient des photos de la famille. Voilà, on est heureux, on a été à Disneyland ce week-end. Hein. Et voilà, rien de plus. Mais tout le monde savait que bah, c'était une couverture. D'ailleurs, malheureusement, les voisins de Californie, là, ont constaté que les enfants étaient blancs et très maigres et pourtant ben ils ont rien fait donc voilà tout le monde savait un petit peu en tout cas tous les gens qui les connaissaient de près ou de loin des voisins ou des gens sur Facebook ils se rendaient bien compte qu'il y avait quelque chose de pas normal et personne n'avait rien fait. Et d'ailleurs, si vous connaissez l'affaire, vous avez sûrement dû voir la vidéo où ses parents se marient une seconde fois devant Elvis Presley, ça doit être à Las Vegas à mon avis, et les enfants, ils sont là, tout maigres, en train de danser de manière très gênée et gênante enfin, autour d'eux. En revoyant les vidéos de ce moment, les sœurs se mettent à pleurer et elles expliquent que oui, la famille d'apparence, voilà, ils avaient l'air contents d'être de sortie. Vraiment, enfin, je pense que elle a dit sur le moment, ils étaient tous contents. En tout cas, les plus jeunes, ils étaient contents d'être dehors, d'avoir une petite sortie en famille. Mais qu'en vrai de vrai, une fois qu'ils rentraient, bah, ils ne comprenaient pas pourquoi ils pouvaient pas être une famille normale comme ça tout le temps, qu'à chaque fois qu'ils rentraient, il fallait qu'ils réenfilent leurs vêtements sales, alors que bah, y en avait des vêtements avec lesquels ils sortaient dehors pour paraître normal, mais non, quand ils rentraient à la maison, il fallait retourner dans la crasse et bah, se faire maltraiter par les parents. Mais pourtant, à l'extérieur, ils faisaient genre que tout allait très bien chez eux. Et pour pousser le vice encore plus loin, s'il vous plaît, les parents, ils entassaient des vêtements sales, d'accord, ça on l'a répété plusieurs fois, mais des vêtements neufs aussi. Il y avait des racks entiers de vêtements neufs avec les étiquettes encore dessus, des jouets dans le neuf, dans les placards. Ils ont carrément déclaré faillite tellement ils faisaient flamber la carte bleue en achetant des vêtements pour enfants, des jouets pour enfants, etc. Donc allez savoir quel était le délire derrière tout ça. Ça achète plein de vêtements et puis ça les laisse à la portée Dieu des enfants et par contre ça les laisse pourrir dans des vêtements dégoûtants pendant des mois d'affilée. Donc franchement je sais pas, je comprends pas. Après je pense qu'il n'y a pas à comprendre, hein. C'était juste des tarés. Mais voilà, c'était pour montrer un peu la perversité de ses parents. Et pas qu'un peu, hein, des 6 000 $ d'un coup à tel magasin, 3 000 $ par-ci, par-là, enfin, sans queue ni tête, vraiment. Donc je reprends mon histoire par rapport à Jordan qui s'évade à travers les vidéos YouTube et voilà, qu'elle comprend que c'est pas ça la vie. Bah, en fait, elle met la main sur un téléphone que certains de ses frères et sœurs adultes avaient le droit d'avoir parce que les parents voulaient être en mesure de les appeler à distance quand eux-mêmes ils n'étaient pas à la maison et bah, pouvoir voilà, les contrôler de loin quand ils partaient tous les deux ensemble. Et Jordan, elle va commencer à faire des vidéos YouTube qu'elle publie, dans leur dos bien sûr. Elle en profite quand ils ne sont pas là, voilà, elle va dans la salle de bain et elle se filme en train de chanter ses propres chansons qu'elle écrit elle-même, et bon bah les titres ils sont pas très fun, hein, faut le dire. Elle écrit une chanson qui s'appelle You Blame Me, ou alors il y en a une autre qui s'appelle Where is the Key, donc où est la clé, tu me blâmes, enfin tu me reproches, tu me fais des reproches, donc voilà, ça c'est le titre des chansons. Il y en a une autre, c'est Give Me One More Chance, enfin voilà quoi, que des chansons avec des paroles très dark. Mais bon, au moins, ça lui a permis de, bah, d'extérioriser un petit peu, de raconter ce qui se passe dans sa vie. Et puis voilà, quoi. Bref, on va pas parler du contenu des chansons. Mais en gros, il y a des gens qui laissent des commentaires et qui remarquent qu'elle est tout le temps dans la même pièce. Et quelqu'un dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est toujours dans sa chambre, celle-là? Enfin bref, et elle engage la conversation avec lui ou elle, je sais pas. Apparemment, c'est un lui, et elle explique qu'ils ne mangent pas, qu'ils sont cloîtrés chez eux, et qu'ils sont maltraités, tout simplement. Et la personne lui répond bah, que c'est pas normal, qu'elle devrait appeler la police. Jordan, elle est soulagée parce que c'était un peu l'impression qu'elle avait. Elle se disait bah voilà, je vais essayer d'attirer l'attention d'inconnus sur les réseaux sociaux et bah, me conforter dans l'idée qu'il faut vraiment que je fasse quelque chose, que c'est pas normal, qu'il faut que j'agisse. Et c'est ça qui lui a donné la force bah de faire action. Voilà, elle se dit, bah, c'est, bah voilà, c'était ce qu'il me fallait. Il me fallait la validation de quelqu'un de l'extérieur qui me dise que bah, j'ai le droit d'appeler la police, j'ai le droit de dénoncer mes parents et ce qu'ils nous font. Et voilà. Et heureusement d'ailleurs qu'elle ne soit pas tombée sur un troll. S'imaginer. Mais même les trolls, j'imagine, on leur dit, ouais, ben, je mange pas, etc. Je suis sûre qu'ils ne vont pas... On pas dire ben mange du gâteau à la Marie-Antoinette. Non, enfin bref. Voilà quoi, on est content que Jordan soit tombé sur que des personnes qui sont bienveillantes et qui lui ont bah, qui l'ont aidé tout simplement. Parce que je peux vous dire que j'en ai écouté des histoires où les personnes qui avaient besoin d'aide avaient vraiment que des merdes, faut le dire, qui leur arrivent à chaque fois qu'ils voulaient se tourner vers quelqu'un pour demander de l'aide, on leur disait mais bah, c'est n'importe quoi ce que tu racontes, ou c'est normal, carrément. Enfin bref, même des gens, quand ils appellent le 911, il y a des personnes qui répondent, qui sont même pas compétentes, qui détournent le sujet, qui vont pas du tout les aider, qui vont poser une quarantaine de questions qui servent à rien, alors que le temps manque et c'est, bah, c'est crucial, faut qu'ils envoient une voiture tout de suite. Là, pour le coup, Jordan, elle a de la chance. Enfin, oui, elle a de la chance. Elle est dans une situation dégueulasse et les seules fois où elle a l'occasion de parler avec quelqu'un, bah, les gens la croient et lui laissent le temps de parler. Ils font pas des trucs bizarres. Enfin voilà. En plus, ses petites sœurs viennent la réveiller la nuit pour lui dire que bah, elles en peuvent plus, elles ont faim, etc. Donc elle veut agir vite parce qu'elle a entendu ses parents en plus dire qu'ils comptaient déménager en Oklahoma, donc presque à l'autre bout du pays. Donc voilà, ils sont en Californie. Dites-vous, c'est à l'ouest. J'ai du mal. On va dire c'est à gauche des États-Unis, d'accord? Et vous avez la droite des États-Unis. Avec la Floride. J'ai l'impression que je dis des conneries. Et en gros, l'Oklahoma, on va dire, c'est en plein milieu. Donc voilà, il y a quand même, je crois, j'ai regardé 1600 miles ou quelque chose. Donc en kilomètres, je ne sais pas combien ça fait. Mais c'est quand même 16 heures de route ou 19 heures de route, je ne sais plus. Enfin voilà, quoi, c'est super loin. Ils veulent déménager super loin. Et d'ailleurs, avant qu'ils arrivent en Californie, ils habitaient dans une autre maison, je ne sais plus où. Et les voisins ont dit qu'une fois qu'ils sont partis, ils ont été dans la maison. Alors, pour bien vous montrer à quel point ils savent qu'ils étaient bizarres, hein, la famille. Enfin, la famille, que les parents étaient bizarres. Ils sont allés eux-mêmes regarder dans la maison. Ils ont été faire leur petite fouine. Et ils ont remarqué qu'il y avait des tonnes de déchets à l'extérieur qu'ils avaient laissés là avant de partir. Et à l'intérieur, bah pareil, c'était crade. Il y avait des animaux morts, enfin des animaux de compagnie, parce que les animaux, voilà, ils auraient pu rentrer d'eux-mêmes, attirés par la bouffe, etc. Non, là, c'était des animaux de compagnie qui étaient morts dans le jardin ou dans la cabane de jardin, sous des tonnes de déchets, enfin vraiment. C'est bizarre, soudain, le nombre de gens qui ont des choses à dire sur la famille, mais pas sur le moment. Hein, sur le moment, on dit rien, alors que franchement, là, il y avait quand même 13 enfants. Les 13, ils sont tous maigres. Ils sortent pas, ils sont tout blancs. Enfin, je sais pas. Enfin, bon. Voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé, c'est tout. Quelques jours seulement après s'être décidé à prendre la fuite, Jordan, elle s'est fait prendre avec le téléphone en train de regarder des clips par sa mère. D'ailleurs, elle appelle ses parents père et mère. Donc, elle dit que sa mère ne les aime pas, qu'elle ne passe jamais de temps avec eux et que bah, elle la connaît pas trop. Enfin voilà, ils ont vraiment aucun lien. Et sa mère, quand elle la surprend, elle se met à l'étrangler tellement fort que Jordan dit que bah elle pensait que elle allait y rester quoi. Elle croyait qu'elle allait mourir là tout de suite. Puis au final, sa mère, elle la relâche. Et après cet épisode, Jordan n'arrête pas de faire des cauchemars où elle rêve que sa mère veut la tuer. Et c'est ça qui la détermine, on va dire. Elle a tellement peur de sa mère qu'elle veut à tout prix s'enfuir, que là, ça y est, c'en est trop, elle veut partir d'ici. Elle voit que ses petites sœurs, etc., aussi, que ça peut plus continuer comme ça, qu'elle sait que voilà, le monde extérieur, il est d'accord avec elle sur le fait que c'est pas une situation vivable, qu'il faut absolument qu'elle prévienne la police. Donc ça fait quand même 2 ans que les enfants ils pensent à s'échapper, mais c'est seulement le 14 janvier 2018 que deux des filles, une âgée de 13 ans, alors, j'ai pas son nom parce que la plupart des enfants, jusqu'à aujourd'hui, ils sont restés anonymes. D'ailleurs, sur les photos que je vais vous mettre sur Twitter, ils seront tous floutés. Le visage de tous les enfants est flouté, en général, à part Jordan et les parents. Et Jennifer aussi, la plus grande sœur. Le reste, ils sont tous floutés. Donc, elle est accompagnée de Jordan, qui, en 2018, a 17 ans. Et elles parviennent à sortir par une fenêtre. Donc la plus jeune, elle prend peur et elle abandonne. Elle retourne dans la maison, mais Jordan, elle, elle est, Elle, franchement, elle est déterminée. Elle continue son chemin. Comme je vous l'avais raconté, elle se met à courir et elle finit par appeler la police au coin de la rue avec le téléphone. Et elles étaient bien préparées puisque Jordan avait pris les photos de ses sœurs enchaînées, de l'état de la maison, etc. Donc vraiment, Jordan, elle est incroyable, super intelligente et elle a un courage à toute épreuve. Vraiment, elle avait vraiment envie de découvrir l'extérieur et voilà, elle était obligée, elle allait le faire. Franchement, s'ils avaient attendu plus longtemps, je pense que Jordan, elle aurait réessayé autant de fois qu'elle pouvait, tant que sa mère l'étrangle pas à mort, bien sûr. Mais voilà, elle était déterminée, ça c'est sûr. Et puis ça se voit dans les vidéos, elle est très, comment dire, allez voir les vidéos, vous verrez ce que je veux dire, elle est très... très ouverte, elle parle malgré ses difficultés à parler parce qu'elle en a encore un petit peu, ça s'entend. Elle parle beaucoup, voilà, elle est très entreprenante et elle dit que plus tard, elle a l'intention de faire des discours, elle a l'intention de motiver des gens qui seraient ou qui étaient dans la même situation qu'elle à reprendre leur vie en main et à se motiver, quoi, tout simplement, à se dire que il y a toujours de l'espoir. Qu'elles, elles ont réussi à s'en sortir, d'autres personnes le peuvent. Bon, après, chacun est dans sa situation, hein, et bien sûr, les parents l'avaient tuée avant qu'elle puisse s'échapper, tu peux écouter des speeches autant que tu veux, ça va pas vraiment te servir. Mais, bref, vous m'avez compris, elle veut devenir une personnalité qui inspire d'autres personnes par son histoire. Suite à la découverte des enfants dans la maison, forcément, les parents... Enfin, je dis forcément. C'est pas automatique, mais là, heureusement, ça l'est. Les parents sont arrêtés et ça fait surface. Hein, ça fait la une des journaux, etc. Je me souviens, en 2018, que j'avais lu qu'une jeune fille s'était échappée d'une maison et qu'ils avaient découvert tous ses frères et sœurs, qui avaient 15 enfants. Enfin, j'ai vu les vidéos avec Elvis Presley, etc. Enfin, je connaissais l'affaire. Donc, ça fait le tour du monde. On sait que les enfants ont été emprisonnés, battus, étranglés, maltraités, mal nourris. Enfin, voilà. Et Jennifer, la plus âgée des enfants, qui avait 29 ans le jour de l'arrestation, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure quand j'ai parlé du jeune de 11 ans qui lui avait la circonférence du bras égal à celui d'un nourrisson. D'un nourrisson, je ne sais pas si quand on a 4 mois on est encore un nourrisson, enfin je ne suis pas... Je ne suis pas très renseignée sur les bébés, mais celle qui était la plus âgée, qui avait 29 ans, elle ne pesait que 37 kilos. Donc ces détails, ils sortent dans les articles, voilà, et ça choque vraiment tout le monde. Et c'est normal. Les parents, David et Louise Turpin, âgés de 57 et 49 ans au moment de l'arrestation, se connaissent depuis qu'ils sont adolescents. En tout cas, elle avait 16 ans quand elle fugue de chez elle pour le retrouver et se marier avec lui. Soi-disant très croyant, ils expliquent que c'est Dieu qui leur a dit de faire le plus d'enfants possible. Bon, après, jusque-là, on va dire qu'il n'y a pas de problème. Sauf que, bien sûr, ils n'ont pas grand-chose à dire pour s'expliquer. Donc, ils sont filmés... au tribunal, enfin je sais même pas, non, ouais, c'est sûrement au tribunal, ils sont filmés là où ils sont jugés en train de pleurer, en s'excusant, classique. Et je cite le père qui lâche une punchline typique, « Je m'excuse si je vous ai fait du mal ». Notez l'utilisation du conditionnel, pour lui c'est pas sûr. La mère, elle, dit que elle les aime plus qu'ils ne l'imaginent et qu'elle regrette tout ce qu'ils ont enduré. Voilà, c'est tout. Puis même au passage, le père, il n'arrive pas à finir ce qu'il avait écrit, donc c'est son avocat qui va lire pour lui. Je sais pas pourquoi cette scène, j'ai l'impression que je l'ai vue 40 fois, la scène du « je m'excuse si jamais j'ai fait quelque chose de travers, je m'excuse si tu l'as mal pris ». Un grand classique. Ils sont tout d'abord accusés de 12 chefs d'accusation le 18 janvier, dont torture, séquestration, violence et maltraitance d'enfants. Le père, au passage, il est accusé d'actes obscènes envers une de ses filles qui avait moins de 14 ans. Puis quelques jours plus tard, la liste s'allonge et c'est désormais une cinquantaine de chefs d'accusation qui sont relevés contre eux. Leur caution s'élève à plusieurs millions d'euros chacun. Autant dire qu'ils vont nulle part, hein. Bien sûr, ils bougent pas de prison, ce sont pas des Robert Durst. Le père qui avait menti au sujet de la scolarisation des enfants en remplissant des faux papiers disant qu'ils étaient scolarisés dans une école privée hein, dont soi-disant il était le directeur et sa femme l'unique professeur. Voilà, il est accusé de falsification de documents tout simplement parce qu'ils se rendent compte que maintenant que ce qu'il avait raconté c'était faux. Mais quand ils sont partis de l'école, parce qu'ils ont été à l'école à un moment quand même, bah au final, personne ne s'était rendu compte que le père, il avait raconté des mythos et qu'il s'était inventé une vie. Il plaide tout d'abord non coupable, bien sûr, mais le 22 février 2019, il change d'avis, il plaide coupable devant la masse de preuves et d'accusations de torture, maltraitance, etc. Et ils sont condamnés à la prison à vie avec une peine de sûreté de 25 ans. Et les experts pensent qu'au vu de la sévérité des crimes qu'ils ont commis, ils sont sûrement pas prêts de sortir. Même après 25 ans, ils vont être, ils pensent en tout cas, en prison jusque la fin de leur vie. Et c'est bien fait, voilà. Les enfants, eux, ils passent d'abord plusieurs semaines à l'hôpital. Il y en avait 6 qui étaient encore mineurs et ils sont placés ensuite dans des familles d'accueil. Donc ils sont traités d'abord pour la malnutrition hein, qu'ils ont subie au fil des années et qui leur ont causé des retards en presque tout, hein, des retards de croissance, de capacité cognitive, neurologique, voilà, le manque de nutriments leur a même affaibli le cœur. Voilà, c'est à ce point-là. Vous devez vous dire, bon bah voilà, ils sont libérés, ça va mieux. Ils ont dû être placés dans des familles d'accueil super gentilles.
Non.
Eh bien malheureusement, non. Certains des enfants sont placés dans une famille chez qui apparemment il se passait des trucs pas nets à nouveau.
Oh shit, here we go again.
Heureusement, ils sont retirés de cette famille et sont placés ailleurs. Après, en termes de temps, je ne sais pas s'ils sont restés longtemps dans cette famille-là ou pas. En tout cas, au moins, ça a été. Enfin, le problème a été réglé, ça a été déclaré, ça s'est pas, ça n'a pas recommencé encore pendant des années. Donc, tant mieux. Les plus grands ont leur appartement et vivent de manière indépendante. Ils ont même un travail. C'est le cas de Jennifer. La plus grande qui dit qu'elle est très heureuse dans sa nouvelle vie, elle a un chat et un lapin, ainsi qu'un travail qui lui permettent d'avancer et de se remettre doucement de toute cette histoire. Enfin de se remettre, c'est un bien grand mot. En tout cas, Jennifer affirme que tous les enfants sont dans des bonnes situations aujourd'hui et qu'ils sont tous heureux. Justement, Jennifer et Jordan font des apparitions beaucoup à la télé américaine en ce moment. Et j'ai vu justement cette interview par ABC sur YouTube dans mes recommandations et je me suis dit, ah ben cette affaire-là, ça fait longtemps que je n'en ai pas entendu parler et j'ai entendu, j'ai regardé tout le documentaire du coup. Je me suis basée dessus pour écrire cet épisode parce que c'était beaucoup mieux raconté que sur les articles que j'ai pu trouver. Enfin en même temps, c'est normal, c'est elle-même qui raconte leur histoire, donc comment faire mieux que ça? Mais Jordan, elle explique quand même qu'elle a été relâchée de sa famille d'accueil comme ça, du jour au lendemain, en fait, sans aide de personne, sans aide pour se loger, sans réhabilitation particulière pour faire face à la vie qu'elle a jamais connue. Elle s'est retrouvée à la rue, vraiment sans savoir quoi faire, hein, sans savoir où se loger, sans savoir comment se procurer de la nourriture, enfin... livrée à elle-même, et je trouve que c'est quand même incroyable qu'après tout le brouhaha que cette affaire a fait, les gens qui ont tourné autour de cette histoire, les médias, etc., les gens de la justice, enfin le système tout court, il n'y a personne qui les a aidés. Ou en tout cas, il n'y avait rien de prévu, il n'y a rien qui a été acté, écrit, à part voilà, les placer en famille parce qu'ils sont mineurs. Il n'y a rien d'officiel qui a été prévu pour voilà, pas les rééduquer, mais leur faciliter leur transition. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu le béaba, enfin, avoir une aide psychologique, quelque chose, on dirait que vraiment, ils n'ont rien eu du tout. Bah, là, c'est le cas, hein. Jordan dit qu'elle n'a rien eu du tout, elle s'est retrouvée dans une situation vraiment difficile et que ça fait que seulement quelques mois qu'elle est en mesure de s'occuper d'elle-même. Enfin, elle a retrouvé, je ne sais pas d'ailleurs comment elle a fait, elle ne le précise pas vraiment, mais en tout cas maintenant, là, aujourd'hui, elle est bien, mais il y a eu un moment où, une fois qu'elle n'était plus dans la famille dans laquelle elle était placée, elle était livrée à elle-même, ce que je trouve incroyable. Enfin, incroyable. Non, j'arrive tout à fait à le croire, hein, vu comment le système américain, mais j'ai envie de dire le système de partout, en fait. Le système mondial ne va pas bien. Enfin, voilà, quoi. C'était l'histoire de l'affaire Turpin. Je vous invite grandement, si vous êtes arrivé jusqu'ici, à aller regarder l'interview complète sur YouTube de Jordan et Jennifer. C'est super intéressant et je vous mets les liens en description. Après, vous verrez, il y a des playlists où... en fait, c'est en plusieurs parties de 9 minutes à peu près, 9-10 minutes à chaque épisode sur YouTube. Et vous pourrez voir la suite en cliquant suivant. Je vous mets juste le lien de la première vidéo. C'est en anglais. Et voilà, je ne sais pas s'il y a la possibilité de mettre des sous-titres, peut-être. Mais en tout cas, c'est juste intéressant de les voir toutes les deux, de voir un peu comment elles s'expriment, etc. En sachant le contexte, quoi. Je vous mets quelques photos aussi sur Twitter, comme d'habitude, @secreepypod. Des photos gênantes de toute la famille à Disneyland ou avec Elvis Presley. Voilà, quelques photos de la maison qui est dégueulasse. La photo des parents qui sont glauques à mourir. Et voilà, mais dites-vous qu'au moins, au moment où on se parle là tout de suite, ils sont dans leur petite cellule enchaînée. Non, c'est faux, ils ne sont pas enchaînés, ils sont juste dans leur cellule malheureusement, mais... Au moins, ils y sont, d'accord ? Il y a des histoires qui sont bien plus rageantes que celles-ci. Direct, ils ont été mis en prison. Et aussi, je pense que peut-être le fait qu'ils soient autant d'enfants, ça a créé tellement de buzz que c'était impossible de les laisser s'échapper avec ça. Il y avait 13 enfants. Enfin, voilà, quoi. Je ne dis pas que parce qu'il y a un seul enfant que ça y est... Il faut traiter moins sérieusement les histoires, hein, mais sur Netflix, je sais qu'il y a eu un documentaire True Crime qui justement retrace une autre affaire où il me semble en tout cas qu'il y avait un seul enfant, parce que je crois que c'est même son nom qui est dans le nom du documentaire. Je viens de vérifier, c'est Gabriel Fernandez, si vous recherchez sur Netflix. Mais apparemment, dans cette affaire-là, tout le monde était au courant, ça a été... ça a été dénoncé au service de l'enfance je ne sais combien de fois et pourtant l'enfant est mort, donc voilà ça, je pense que les gens étaient tellement remués, enfin l'opinion publique était tellement remuée par cette histoire, oh my god, 13 enfants enchaînés, puis en plus avec la tête des parents là, ça a vraiment, tout le monde s'est intéressé et je pense que les gens n'auraient pas laissé le fait que ils soient en liberté, donc bref, voilà quoi. Je vous avoue que je ne me suis pas trop penchée sur l'histoire du couple, enfin de comment il s'appelle déjà, Louise et David Turpin, parce que j'ai pas trouvé qu'il y ait beaucoup de choses à dire sur eux, même dans le documentaire, enfin ils abordent vite fait leur histoire. Le père a l'air un peu violent, mais enfin je sais pas, en tout cas moi leur histoire ça m'a pas trop intéressée, je vous mens pas. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un couple très spécial et qu'ils sont en prison, voilà, tout simplement. Pour une fois, il n'y a pas de mort dans cette histoire, mais bon, c'est pas passé loin non plus. Jennifer, elle a révélé avoir pensé d'ailleurs au suicide à plusieurs reprises. La mère a failli tuer Jordan avec ses mains. Et puis je pense, comme elles le disent, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses dans cette maison qu'elles ne diront pas forcément. Enfin, elles ne vont pas en faire la liste non plus. Elles ont déjà dit beaucoup de choses. Mais voilà, ça reste une histoire horrible. Et je suis très contente qu'elle s'en soit sortie. Et en plus de cette manière, parce que c'est assez héroïque, moi je trouve que Jordan, voilà, elle a assuré. Enfin, même Jennifer, elle a assuré. Enfin, je ne connais pas l'histoire de tous les enfants et tous les rôles qu'ils ont pu jouer dans cette affaire, mais en tout cas, on relève que, voilà, bravo à Jennifer et à Jordan pour leur courage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous connaissez cette affaire ou pas. Peut-être réagir aux photos que je vais poster. À chaque fois, les photos que je pose sur Twitter, c'est terrible. Hein. Je pose des photos glauques à chaque fois, mais bon, j'ai pas le choix. Hein. Au moins, si vous pouvez... Enfin, j'ai pas le choix, si, j'ai le choix. Mais au moins, si vous pouvez avoir un petit aperçu, je pose pas les photos, les pires photos. En vrai, j'essaie de choisir un petit peu, je fais un petit filtre. Je vais pas vous poster les photos des scènes de crime. Mais bon, là, je vais vous montrer... Je vais vous montrer un peu l'état de la maison, etc. Les vêtements qu'ils pouvaient porter, voilà... la tête des parents, et puis on va s'arrêter à là. Mais voilà, j'espère que l'histoire vous aura plu. Enfin, vous m'avez compris. Et n'hésitez pas à me laisser une petite review sur Apple Podcast, vous aussi, puis je lirai ça la semaine prochaine. Si jamais ça peut vous intéresser, le reste de la semaine... Vous pouvez me parler sur mon autre compte Instagram, at chungawawa, chungawawa. En fait, je tiens une boutique de bijoux, etc., et accessoires, et c'est là que j'alimente le reste de la semaine. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas posté la semaine dernière, parce que je n'avais pas le temps. À cause de Noël qui arrive, etc., et des commandes. Donc voilà, si jamais vous voulez faire un tour par là ou garder contact par là-bas, si jamais je réponds pas sur Twitter ou quoi. Voilà, vous savez où me trouver et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire bien creepy.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
T'es encore là? Envie d'écouter plus d'épisodes de C'est Creepy? Une douzaine d'épisodes exclusifs t'attendent sur mon Patreon. Ouais, une douzaine. Voici un petit aperçu de ce qui t'attend.
Oui, mais un pistolet d'alarme, c'est pas une arme. Tu sais, c'est des balles à blanc, en fait.
Ok.
C'est pour faire peur.
Je me suis dit, peut-être le pistolet, il fait radio réveil ou je sais pas ce que ça s'appelle. Candy a dû s'emparer de la hache et pour ce faire, elle a dû distraire Betty en lui mordant la main. Ensuite, elle frappe Betty à l'arrière du crâne avec la hache. Sauf qu'à l'époque, ils sont pas très très microbes et bactéries. Du coup, Charles décide d'écourter son séjour à Paris et rentre au Glandier le 3 janvier, au bout de sa vie. Ou plutôt au bout du rouleau de PQ. Et c'est Marie. Vu qu'il y avait des doutes de meurtre, prouvez à tout le monde que ce n'est pas un meurtre, prouvez que c'est un suicide. Refaites les tests, montrez que avec la corde, nanana, lancez le truc par-dessus bord. Non, ils ont rien fait. C'est aberrant.
Quelle indignité.
Sache que tu peux aussi, dès aujourd'hui, rejoindre mon Patreon gratuitement pour tester et écouter un épisode exclusif. tu auras tout de suite accès à l'épisode sur la macabre histoire d'Ed Gein, mais aussi à la version vidéo de mes épisodes publics que je commence à filmer pour que vous ayez accès aux coulisses. Pour rejoindre, rien de plus simple, tu trouveras le lien Patreon dans la description de cet épisode. À tout de suite pour plus d'histoires bien...
creepy.